Imaginez un peu la scène. On ouvre un roman absolument fascinant sur l'Empire romain.
Avec les toges, les combats de gladiateurs, tout ça.
Ouais, exactement, le grand péplum, quoi. Et l'auteur y décrit les manœuvres politiques au Sénat, les légions de Jules César, avec une précision vraiment chirurgicale.
Donc une immersion totale.
C'est ça, en lisant ça, le texte respire l'Antiquité. Sauf que, ben, en regardant la page de garde, on réalise que ce livre sort tout juste de chez l'imprimeur.
Ah oui, le petit choc temporel.
Voilà. Il a été écrit au XXIe siècle. C'est un vrai tour de magie littéraire, un décalage chronologique qui nous trompe complètement.
Et c'est redoutablement efficace.
Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce genre d'illusion d'optique que nous fait subir l'un des textes les plus célèbres de l'Antiquité.
Le fameux livre de Job ?
Tout à fait. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de prendre toutes nos conceptions modernes sur la façon dont un texte est créé, daté et écrit, et de les faire voler en éclats.
Et on va pas y aller de main morte.
Non, pas du tout. On va plonger dans ce cas d'étude vertigineux à travers le prisme des notes de recherche du docteur John Walton. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que pour comprendre la véritable nature de cette œuvre, il faut d'abord réaliser à quel point notre cerveau est pris en otage par l'industrie de l'édition moderne.
Complètement formaté, ouais.
Quand on pense à la création d'un texte aujourd'hui, on visualise quoi ? Ben, on visualise un auteur solitaire au fond d'un café tapant sur son ordinateur.
Avec son petit agent littéraire qui négocie des droits d'auteur derrière.
C'est exactement ça. On a cette notion très stricte de propriété intellectuelle. Et si l'on plaque cette image mentale d'un romancier avec son agent sur la création des textes bibliques, on navigue en plein délire anachronique.
Ah, c'est un anachronisme total en effet. Et c'est vraiment le point de départ incontournable pour entrer dans cette analyse. Ce qui est fascinant ici, c'est que dans le monde du Proche-Orient ancien, bah, les concepts même de livres et d'auteurs n'existent tout simplement pas.
Pas du tout. Même pas un peu.
Non. Le vide absolu sur ce plan. Personne ne se réveille en matin à cette époque avec l'ambition d'écrire un livre pour le publier et trouver son public. Ça n'a aucun sens pour eux.
Donc pas de liste des best-sellers à l'époque.
Voilà, c'est ça. Au lieu de l'auteur moderne, l'Antiquité s'articule autour de ce qu'on appelle des figures d'autorité.
D'accord.
Ce sont des leaders, des prophètes, des sages. Et leur rôle à eux n'est pas d'écrire. Leur rôle, c'est de parler.
Ah, la nuance est importante.
Très importante. Ils transmettent un message, une vision, une tradition à l'oral. Et en parallèle de ces orateurs, de ces figures d'autorité, on trouve les scribes.
Les fameux scribes.
Oui. Et ces scribes ne sont pas des créateurs au sens littéraire. Ce sont des techniciens de l'écriture, si on veut. Ils ne produisent pas des livres destinés à la vente. Ils rédigent des documents strictement utilitaires.
Parce que le support physique était compliqué, non ?
Ah ben, la nature même du support l'impose. On parle de graver des signes sur des tablettes d'argile fraîches, quoi. Des tablettes qu'il faut ensuite faire cuire ou laisser sécher au soleil.
Ça prend un temps fou.
Et ce n'est pas tout. On parle aussi de rouleaux de papyrus qui sont extrêmement fragiles et surtout très coûteux. Ou encore de tablettes recouvertes de cire pour faire des brouillons temporaires.
Donc l'acte d'écrire est hyper laborieux.
C'est physique, c'est cher, c'est lent. Du coup, imposer nos étiquettes modernes d'auteurs et de livres à cet écosystème, c'est vraiment forcer l'Antiquité à parler notre langue moderne.
Au lieu de faire l'effort d'apprendre la sienne, c'est un changement de paradigme radical en fait.
Tout à fait.
Parce que si l'on n'a pas d'auteur solitaire qui ponde des livres sur commande, on est en droit de se demander comment la connaissance circulait au quotidien. Et surtout, quel crédit on accordait à un texte écrit ?
C'est une excellente question.
Parce qu'aujourd'hui, notre réflexe, c'est de dire que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On a cette obsession de l'écrit. On considère que ce qui est imprimé noir sur blanc, c'est la vérité ultime.
C'est notre fameux contrat signé, quoi.
Voilà. Mais en lisant nos sources pour cette analyse, une réalité très différente émerge. L'écriture, pour l'écrasante majorité de la population antique, c'était un peu comme l'apprentissage d'une langue étrangère au lycée aujourd'hui.
Ou du latin, oui.
C'est ça. On mémorise quelques déclinaisons pour passer un examen, on apprend vaguement les bases... Mais comme la société n'exige jamais qu'on s'en serve pour acheter du pain ou travailler, bah 10 ans plus tard, on a tout oublié.
Et c'est tout à fait normal.
Ce qui m'amène à une réflexion assez contre-intuitive, du coup. Est-ce que, dans ce monde-là, le document écrit paraissait en réalité moins digne de confiance, moins vivant qu'une parole prononcée de vive voix par un chef ou un sage ?
Ah bah, la réalité historique valide complètement cette réflexion. Le monde antique baigne dans une culture dominée par l'ouïe.
Par l'ouïe, d'accord.
Pas par la vue. La transmission du savoir, des lois ou même des histoires fondatrices, tout cela passe par la parole, le chant, la récitation publique. C'est l'ADN même de leur société.
C'est fascinant de penser à l'écoute comme autorité suprême.
Et par conséquent, l'autorité résidait vraiment dans le son, dans le message entendu. Quand une figure d'autorité prenait la parole, on pouvait la regarder dans les yeux.
On connaissait sa réputation.
Exactement. On connaissait sa généalogie, son statut social. La parole prononcée avait une force de frappe, un poids social et une crédibilité infiniment supérieure à un bout d'argile silencieux.
Un bout d'argile qui, après tout, pouvait être falsifié par n'importe qui sachant écrire.
Voilà. L'alphabétisation universelle n'était ni un objectif, ni une nécessité pour eux. Bien sûr, les scribes maîtrisaient cette technologie complexe qu'était l'écriture, mais pour un agriculteur ou un berger, lire ne servait rigoureusement à rien.
D'accord. Mais alors, si le berger n'en a pas besoin, à quoi sert le scribe concrètement pour la société ancienne ?
Pour bien comprendre le rôle du scribe, l'analogie la plus juste aujourd'hui serait celle du notaire ou de l'avocat d'affaires.
Ah, intéressant.
Si quelqu'un de notre époque doit rédiger un contrat de fusion d'entreprise hyper complexe, il ne l'écrit pas lui-même sur un coin de table dans sa cuisine.
Non, c'est clair. On fait appel à des pros.
Il engage un cabinet d'avocats. Eh bien, dans l'Antiquité, c'était la même dynamique. Si un roi voulait un traité de paix ou si un temple voulait archiver des prophéties, on engageait la guilde des scribes.
Donc le scribe, c'est le technicien juridique de l'époque, en gros. Il manipule l'outil, mais il n'est pas le propriétaire du message.
Exactement. Il est le gardien de l'outil. Et le corollaire de cela, c'est que les documents produits par ces techniciens n'étaient absolument pas faits pour circuler de main en main dans la population.
Il n'y a pas de bibliothèque municipale, quoi.
Pas du tout. Il ne faut pas s'imaginer des bibliothèques de prêt où les citoyens venaient emprunter le dernier rouleau de poésie pour le week-end.
Dommage.
Ces textes étaient jalousement conservés dans des archives institutionnelles, protégées de la lumière et surtout du public. Les scribes pratiquaient leur art en vase clos, copiant et recopiant les textes pour les préserver.
Ce qui change complètement notre vision des textes bibliques.
Tout à fait. Ça nous amène à un point fondamental pour la littérature de l'Ancien Testament. Qu'il s'agisse de psaumes, de généalogies ou d'oracles prophétiques, la vaste majorité de ces éléments ont commencé leur vie comme des discours oraux.
Ils ont été parlés avant d'être écrits.
Oui, ils ont circulé de bouche à oreille, de génération en génération. Ils se sont cristallisés progressivement en traditions fixes bien avant d'être documentés sur des fragments.
Et donc le livre, lui, il arrive quand ?
Le concept de livre compilé et structuré tel que nous le tenons entre nos mains aujourd'hui, il n'apparaît qu'au tout dernier stade de cette immense chaîne de transmission. C'est la ligne d'arrivée, pas la ligne de départ.
C'est fou d'imaginer des textes vivre et respirer pendant des siècles juste dans la mémoire des gens, avant d'être figés sur un support physique. Donc, si je résume, la règle d'or de cette époque, c'est d'abord une tradition orale très longue, ensuite des documents fragmentaires archivés, et enfin, beaucoup plus tard, la compilation sous forme de livres.
C'est le schéma classique, oui.
C'est très clair. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, en étudiant nos sources sur le livre de Job, on réalise que ce texte précis fait complètement exploser ce modèle.
Ah oui, il ne rentre pas du tout dans la case.
Ils refusent de se plier à cette règle de la compilation progressive. Quand on le lit, on est frappé par ces immenses dialogues philosophiques entre Job et ses prétendus amis. Mais honnêtement, là je vous arrête un instant, car je veux me faire l'avocat du diable.
Allez-y.
Les cultures tribales antiques possédaient des traditions de joutes oratoires intenses. On connaît l'existence de bardes capables de retenir des milliers de vers par cœur.
C'est vrai, la mémoire était leur outil principal.
Du coup, pourquoi ne pourrait-on pas simplement envisager que ces longs dialogues théologiques soient la retranscription littérale d'un débat oral magistral ? Un truc improvisé autour d'un feu par des orateurs exceptionnels et mémorisé tel quel par la communauté.
C'est une objection légitime, je vous l'accorde, car la capacité de mémorisation des peuples antiques était phénoménale, bien au-delà de ce dont nous sommes capables aujourd'hui avec nos smartphones.
On a un peu perdu cette capacité, c'est sûr.
Cependant, si l'on relie cela à la vue d'ensemble de l'ingénierie littéraire et de la linguistique hébraïque, cette théorie du débat spontané s'effondre très, très rapidement.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que le livre de Job est l'immense exception de son époque. Contrairement aux proverbes ou aux psaumes, qui sont des patchworks de matériaux oraux rassemblés sur le tard, Job est presque certainement né directement en tant que construction littéraire complète et massive.
Directement à l'écrit, alors ?
Les mécanismes même du texte interdisent l'idée de l'improvisation. Nous ne sommes pas face à une simple conversation animée autour d'un feu. Le texte utilise une prose d'encadrement hautement élaborée.
D'accord.
Et surtout, les dialogues sont rédigés dans une poésie d'une densité et d'une complexité très rares. Ça utilise un vocabulaire qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs dans le reste des écrits bibliques.
On n'est donc pas du tout dans le registre du langage parlé au quotidien, même pour des sages ou des érudits.
Loin de là. Le niveau de symétrie structurelle de l'œuvre est ahurissant. Prenez les discours des trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ils fonctionnent par cycles très précis.
C'est pas juste des amis qui donnent leur avis en vrac.
Exactement. Leurs arguments s'intensifient de manière calibrée. Et les réponses de Job viennent s'imbriquer parfaitement dans les failles théologiques de ses interlocuteurs. C'est de l'architecture textuelle de très haut vol.
Donc, ça demande une planification.
Oui, il y a une préméditation dans l'articulé des thèmes, que ce soit la rétribution, la justice divine ou la souffrance innocente. Ça requiert qu'un maître d'œuvre se soit assis et conçu un plan global et rédigé l'ensemble pour que le début réponde à la fin.
On est face à un véritable ingénieur du texte, quoi.
Cette composition délibérée prouve, hors de tout doute raisonnable, que nous ne lisons pas les minutes sténographiées d'une discussion spontanée dans le désert. C'est un chef-d'œuvre littéraire minutieusement planifié depuis sa genèse.
Ce qui nous propulse directement dans un autre paradoxe complètement fou. Si l'on admet que ce texte est une composition littéraire incroyablement sophistiquée, qui a nécessité un immense travail de rédaction de la part d'un intellectuel antique, la question de la chronologie devient brûlante.
Très brûlante, oui.
Et là, notre cerveau se remet à bugger. Pour reprendre l'analogie du début avec le roman historique sur l'Empire romain, on a ce livre, écrit récemment, mais qui décrit un univers très ancien. Est-ce que le livre de Job fonctionne sur le même principe ?
C'est tout à fait la même mécanique.
Et surtout, comment fait-on concrètement, sans machine à remonter le temps, pour prouver que les événements racontés dans l'histoire sont censés se passer dans une antiquité très lointaine, alors que le texte lui-même a pu être écrit bien plus tard ? Quels sont les indices cachés dans le décor du récit ?
Cette distinction est cruciale. Il faut vraiment scinder de manière clinique la date où vit le personnage et la date où l'encre a couché l'histoire sur le rouleau.
D'accord, on sépare l'événement de l'écriture.
Exactement. L'auteur de Job, quel qu'il soit, a disséminé des marqueurs très spécifiques pour signaler à son public que l'action se déroule dans une antiquité reculée, à l'ère des patriarches, comme l'époque d'Abraham ou de Jacob.
Et comment il fait ça ?
Le détail le plus fascinant relevé par l'analyse concerne l'économie du récit. À la fin du livre, les proches de Job viennent le consoler, n'est-ce pas ? Et ils lui offrent chacun une pièce de monnaie spécifique, appelée la kessita.
La kessita. D'accord.
Or, l'archéologie et l'étude des textes anciens nous montrent que cette unité monétaire, cette kessita, n'était plus du tout en circulation à l'époque des rois d'Israël. On n'en trouve mention que dans très vieux textes, comme dans la Genèse, par exemple.
Ah ! Donc c'est un anachronisme volontaire de sa part ?
L'utiliser dans le texte, c'est comme introduire un doublon espagnol ou un écu d'or du Moyen-Âge dans une histoire d'aujourd'hui. Cela ancre immédiatement le récit dans un passé révolu.
C'est un accessoire d'époque.
À cela s'ajoute la mention des agresseurs de Job, les Chaldéens et les Sabéens. Ils sont décrits ici comme des tribus de pillards nomades, ce qui correspond historiquement à des périodes archaïques, bien avant qu'ils ne fondent de grands empires sédentaires.
Autrement dit, l'auteur s'est assuré que tous les accessoires du plateau de tournage, de la monnaie aux figurants, appartiennent à une époque lointaine. Le décor hurlait l'Antiquité, en fait.
Précisément. L'environnement narratif est indubitablement ancien. Mais le piège fatal dans lequel beaucoup de commentateurs sont tombés au fil des siècles, c'est de regarder ce décor archaïque et de conclure « ce livre a dû être écrit à cette époque ».
Ce qui est une erreur de logique.
Une grave erreur. La sophistication du vocabulaire hébraïque utilisé, les emprunts linguistiques et la manière dont les arguments philosophiques sont structurés, tout cela pointe massivement vers une période de composition beaucoup plus tardive.
C'est fascinant.
C'est un esprit d'une époque ultérieure qui utilise le cadre de l'ère patriarcale pour explorer le problème universel de la souffrance. Fusionner la date des événements et la date de composition, c'est détruire toute la mécanique du texte.
Et cette fusion erronée des dates nous amène au mystère le plus croustillant de cette exploration. En lisant l'analyse, je me suis amusé à lister ce qu'on trouve normalement dans l'Ancien Testament.
D'accord, je vous écoute.
Si c'est un texte rédigé par des scribes israélites, on s'attend à un cahier des charges assez précis. On devrait entendre parler de l'Exode, de la loi de Moïse, des rituels de pureté du Lévitique, du Sinaï.
De l'alliance avec Dieu.
Oui, de l'alliance et bien sûr du tabernacle ou du temple. Or, dans Job, rien. le silence absolu sur toute la théologie israélite.
C'est vrai, c'est frappant.
Et pour couronner le tout, Job, qui n'est même pas un prêtre de la tribu de Lévi, il offre tranquillement des sacrifices d'animaux pour purifier ses propres enfants.
Comme si de rien n'était.
Voilà. Forcément, quand on voit tous ces éléments manquants, la conclusion semble évidente. Beaucoup se sont dit que si le livre ignore totalement la loi et le temple, c'est que l'auteur vivait avant la naissance de Moïse, avant l'Exode, à une époque pré-Sinaï. Ça a l'air d'une déduction logique imparable, n'est-ce pas, Ève ?
Cela soulève une question importante, et c'est effectivement l'argument favori de ceux qui militent pour une date de rédaction extrêmement ancienne. Mais c'est une déduction fondée sur une prémisse totalement fausse.
Ah bon ? Oui.
Ce mystère flagrant des absences ne se résout pas par une explication chronologique, il se résout par la géographie et l'ethnographie.
La géographie.
Le texte ne cache absolument pas la réponse, en fait. Il la donne dès le tout premier verset. Job habitait le pays d'Utz.
Utz.
Donc on n'est géographiquement pas du tout en terre promise.
Pas du tout. Le pays d'Utz est généralement situé à l'est, potentiellement dans le territoire d'Édom ou dans ses environs. Ce qui signifie une chose fondamentale. Job est un étranger. Il n'est pas israélite.
Waouh, d'accord. Une fois que cette vérité éclate, le silence du texte sur la religion hébraïque devient limpide. Pourquoi un nomade étranger de la terre d'Utz débattrait-il des lois lévitiques, d'une alliance contractée au Sinaï ou de l'architecture d'un temple à Jérusalem ?
Ça n'aurait aucun sens, dans son propre univers culturel.
Exactement. Quant au fait qu'il offre des sacrifices lui-même, c'était le standard absolu de la piété dans les sociétés tribales du Proche-Orient. Le patriarche, le chef de famille, agissait toujours comme le médiateur et le prêtre spirituel pour son propre clan.
Donc ce n'est pas un acte de rébellion contre les prêtres de Lévi.
Non, c'est juste sa culture. Le fait que Job agisse ainsi ne prouve pas que le livre a été écrit avant l'invention de la prêtrie israélite. Cela prouve simplement que l'auteur dépeint fidèlement les coutumes d'un étranger.
C'est brillamment fait.
Mais la véritable prouesse intellectuelle, l'ironie magnifique de ce livre, c'est que malgré le passeport étranger de son héros, les motifs littéraires et le ciblage des thématiques démontrent que cette œuvre a été intentionnellement composée pour s'adresser à un public d'initiés.
Des Israélites, donc.
Oui, un public israélite qui lutte avec sa propre théologie.
C'est un véritable casse-tête narratif. On a donc un chef-d'œuvre littéraire hautement structuré et rédigé à une époque tardive par des élites scribales destinées à faire réfléchir un public israélite.
C'est ça.
Mais qui utilise comme avatar de la souffrance un riche étranger issu d'un passé mythique et lointain. Le niveau de complexité est vertigineux.
Et c'est ce qui fait la beauté de l'œuvre.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Je me mets à la place de l'auditoire. On vient de désintégrer le mythe de l'écrivain solitaire au profit de scribes fonctionnaires. On a prouvé que l'histoire ancienne a été emballée dans une littérature tardive.
On a bien secoué les idées reçues, oui.
On a même découvert que le paragon de la foi biblique n'est même pas du sérail. Toutes ces données académiques, ces débats d'archéologie et de datation, est-ce qu'ils ne risquent pas de nous faire rater la forêt parce qu'on regarde les feuilles à la loupe ? Finalement, pour celui qui cherche du sens dans cette lecture, quelle est l'importance réelle de toute cette mécanique en coulisses ?
C'est l'aboutissement indispensable de toute cette déconstruction. Réaliser que le processus de création est infiniment plus complexe qu'on ne l'imaginait, eh bien ça doit nous libérer, pas nous paralyser.
D'accord.
S'obstiner à vouloir identifier le nom de l'auteur, à fixer l'année précise de composition sur un calendrier moderne, ou à séparer au scalpel ce qui relevait de l'oral et de l'écrit, c'est passer complètement à côté de l'essence du livre de Job.
On perd de vue le message principal, en somme.
Exactement. Il faut catégoriser ce texte pour ce qu'il est profondément, le joyau de la littérature de sagesse.
La littérature de sagesse.
Oui. Et la raison d'être de la littérature de sagesse, son moteur absolu, c'est que les axiomes qu'elle propose sont intemporels. La dynamique de la souffrance, le sentiment d'injustice face aux tragédies, le mystère insondable de la gestion du cosmos par la divinité.
Des thèmes qui résonnent toujours aujourd'hui.
Complètement. Ces questions brûlaient l'esprit des Mésopotamiens il y a des millénaires et elles brûlent exactement de la même manière l'esprit humain aujourd'hui. L'autorité de Job ne découle ni d'une signature prestigieuse au bas d'un parchemin, ni d'un certificat d'authenticité chronologique.
Elle vient d'où alors ?
Son autorité est organique. Elle réside dans sa capacité à dire la vérité sur la condition humaine. Que le héros soit d'Israël ou du pays d'Utz, que l'histoire était mémorisée par des bardes ou forgée par des scribes géniaux, mais l'impact de la sagesse reste chirurgical.
C'est fascinant.
C'est la beauté de ce type de texte. Sa valeur ne s'active que par la compréhension et l'application qu'en fait chaque nouvelle génération.
C'est une conclusion incroyablement libératrice, surtout quand on observe nos propres comportements contemporains. Au début de notre exploration, on parlait de cette obsession moderne pour le copyright, pour l'identité de l'auteur, cette manie qu'on a de devoir étiqueter la provenance de chaque idée.
Oui, on est très attaché à la source aujourd'hui.
Et de voir que l'Antiquité se souciait si peu du messager au profit du message, ça fait presque l'effet d'un électrochoc. Ça m'amène d'ailleurs à une pensée finale pour quiconque analyse cette époque sous le prisme de la nôtre. Aujourd'hui, on est noyé, complètement noyé, dans un flux incessant d'informations, d'éditoriaux, de vidéos et de posts sur les réseaux sociaux.
C'est le bruit permanent, oui.
Si l'autorité ultime et la résilience d'un texte antique majeur proviennent uniquement de sa sagesse intrinsèque et intemporelle, et non du pédigré ou de la nationalité de celui qui a tenu le stylet, eh bien on peut se demander si nous n'avons pas pris le chemin inverse.
C'est une excellente question.
Sommes-nous devenus une société tellement obsédée par la nécessité de savoir qui parle, de scruter son étiquette politique, son groupe d'appartenance ou ses qualifications, que nous en avons perdu la capacité d'évaluer de manière neutre et profonde la valeur réelle de ce qui est en train d'être dit?
On juge le contenant plutôt que le contenu?
C'est ça. Si le plus grand traité antique sur la souffrance humaine utilise la voix d'un étranger anonyme pour enseigner une vérité universelle, c'est peut-être une leçon magistrale sur la façon dont nous devrions filtrer notre propre réalité intellectuelle aujourd'hui. C'est en tout cas une piste de réflexion très sérieuse à creuser la prochaine fois qu'une information cherchera à capter notre attention.